Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur la toute nouvelle appli France Inter. Quand les parents divorcent, se séparent, c'est notre thème ce matin. Depuis la loi de 1975 sur le divorce par consentement mutuel, le nombre de séparations a explosé et le tout nouveau divorce sans juge risque d'amplifier le phénomène, avec au centre des séparations les enfants. Mais comment leur parler de cette séparation? Que dire et ne pas dire? Comment limiter les dommages psychologiques? Comment dédramatiser la situation en fonction de l'âge des enfants? Comment ne pas inviter la haine pendant le divorce? Et puis, quid de la garde alternée et de l'autorité parentale exercée conjointement? Enfin, comment faire pour que le divorce passe au mieux et que les enfants soient le moins possible traumatisés, déstabilisés? Dites-nous comment vous avez vécu votre séparation et les conséquences sur votre progéniture. Comment avez-vous fait pour que cela se passe bien? Et puis, devenu adulte, comment avez-vous vécu le divorce de vos parents? Nous attendons vos questions et témoignages par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Elias et Colline attendent vos coups de fil. Et puis dans quelques instants, vous retrouverez la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Écoute, Daniel, je sais qu'il faudra un certain temps pour apaiser les esprits et aussi oublier toutes les méchancetés qu'on a échangées. Oh, c'est si dur. Mais je sais que d'une manière ou d'une autre, toi et moi, on arrivera à surmonter nos problèmes. Mais les gosses, ce n'est pas juste qu'ils en souffrent.
Attends, je voudrais comprendre. Tu veux que je fasse semblant d'être heureux, d'être très bien, que la vie est vachement sympa? Écoute, Miranda, tu réalises que tu m'as enlevé mes gosses.
Essayons de sortir de ces reproches continuels, faisons cet effort.
Un extrait de Mrs. Doubtfire de Chris Columbus en 1993 avec Robin Williams et Sally Fields. Avec nous ce matin pour évoquer ce moment souvent douloureux où les parents divorcent, se séparent, le docteur Noureddine Benzora et Colette Barou-Chabanol. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur chez Albin Michel de l'art d'être des parents divorcés. Noureddine Benzora, vous êtes pédiatre, psychiatre et thérapeute familial. Colette Barou-Chabanol, vous êtes l'ancienne rédactrice en chef de la revue L'École des parents. Alors votre livre, c'est un guide pour aider les parents déboussolés par une séparation. Et c'est aussi un guide pour favoriser l'épanouissement de leurs enfants dans ce moment difficile. Docteur Noureddine Benzora.
Tout à fait. Hein. L'idée, c'était justement d'aider ces parents qui sont confrontés déjà à leurs conflits et comment faire pour qu'ils se décentrent finalement de la problématique conjugale pour pouvoir se donner à leurs enfants. S'occuper de leurs enfants.
Alors depuis la loi sur le divorce par consentement mutuel, en 1975, les séparations ont donc explosé. 44 700 divorces en 1972 contre 123 600 en 2015. Alors au cœur de cette explosion des divorces qui touche tous les milieux sociaux, on l'a dit, les enfants, le divorce déchaîne les passions, peut faire disjoncter les conjoints avec des conséquences sur les enfants. Et même quand les passions ne se déchaînent pas, cela peut aussi impacter les enfants.
Oui, le nombre des divorces, il faut aussi ajouter le nombre des séparations.
Des séparations, bien
puisqu'il
évidemment.
Puisqu'il y a de moins en moins de mariages, de plus en plus de couples qui vivent avec des enfants. Il y a au moins 50% des couples qui ne sont pas mariés, qui néanmoins se séparent. C'est pour ça que nous avons appelé notre livre « L'art d'être des parents séparés », parce que là, les problématiques sont les mêmes, qu'on soit divorcé, qu'on soit séparé. Personnellement, en tant que membre de l'École des parents, c'est un problème qu'on a côtoyé depuis très longtemps, juste après la loi de 75.
Ces divorces, ces séparations qui ont des conséquences très fortes, que les passions se déchaînent ou pas, docteur Noureddine Benzora.
Bien sûr. Alors très peu de couples se séparent dans le calme et l'apaisement. La plupart, on est quand même dans le conflit. Et plus le conflit dure, plus ça a des conséquences sur les enfants. Ça, c'est sûr.
Et l'enjeu, c'est de réussir l'éducation des enfants en dépit des émotions négatives, du ressentiment, de la haine, de la tristesse qui peut animer les parents.
Tout à fait. En tous les cas, l'idée, c'est ça. On peut être séparé et continuer à assumer son rôle de parent, la coparentalité.
Colette Barou-Chabanol.
Oui, enfin, Je pense qu'il y a aussi une forte dissymétrie selon que dans les couples, celui qui part, celui qui est abandonné, l'âge des enfants, la séparation ne se gère pas de la même façon, ni l'annonce, ni le vécu, ni le ressentiment qu'on peut avoir. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que le ressentiment, il est très différent quand une maman se retrouve toute seule et que son compagnon est parti, ou bien quand au contraire elle a rencontré un nouvel amour et que elle est heureuse et finalement elle est un petit peu plus détendue quant aux relations avec son ex-conjoint. Et voilà, en fait, ce que je voulais dire juste d'emblée, c'est que au début, dans les années 90, on a beaucoup minimisé l'impact des séparations parce qu'on était sur une vague de un peu d'euphorie, ça y était, on n'était plus dans les divorces pour faute, donc on allait se séparer comme il faut, en fait, ça, et il suffisait d'exposer aux enfants le problème. Et on est progressivement un peu descendu en s'apercevant à travers les remontées des médiateurs familiaux, à travers les thérapeutes également, on s'est aperçu que finalement, c'était pas si cool que ça, que les enfants étaient pris en une sorte.
Docteur Nouredine Benzora.
Oui, tout à fait. Je pense que, qu'on le veuille ou pas, les enfants sont complètement, entre guillemets, isolés quand il y a un conflit. Les parents, c'est quand même les repères qu'on peut avoir et que tout d'un coup, quand on les voit complètement accaparés par le conflit, l'enfant est quand même perdu.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Grand reporter du quotidien dans l'émission. Alors vous avez rencontré un couple qui a plutôt bien réussi, avec des guillemets évidemment, son divorce. On écoutera votre reportage tout à l'heure, mais dites-nous en deux mots.
C'est un couple de trentenaires, parents d'un petit garçon qui a 5 ans et qui a réussi le tour de force de ne pas se déchirer, de protéger la relation de confiance qu'ils avaient déjà avant, sans l'amour.
Et dans votre ouvrage, on voit que c'est possible de se séparer sans se déchirer et sans que ça ait des conséquences trop graves sur les enfants.
Heureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le conflit, on peut comprendre que les gens souffrent d'une séparation, mais quand on a des enfants aussi, ça aide justement à dépasser cette douleur.
Dites-nous comment vous avez vécu votre séparation et quelles étaient les conséquences sur vos enfants. Comment avez-vous fait pour que cela se passe bien? N'hésitez pas à témoigner sur grandbienvousfasse@radiofrance.com et au 01 45 24 7000. Et il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice qui nous propose ce matin une petite revue des parents divorcés dans la pub.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Comment ça va?
Ça va bien.
Vous avez très bonne mine en tout cas. Hein. Les vacances vous ont réussi.
Merci.
Ce matin, dans votre petite philo de la pub et des marques, vous vous intéressez à 3 cas de divorce dans la pub.
Ben oui Ali, parce que vous savez pourquoi est-ce qu'on adore détester la pub ou qu'on déteste l'aimer? C'est parce que c'est un miroir de la société. Alors c'est déformant ce miroir bien sûr, mais c'est un miroir quand même. Je vous propose donc une petite sélection de 3 publicités qui mettent en scène le divorce à 3 époques différentes et qui témoignent donc de 3 perspectives différentes sur le divorce. Alors on commence un peu en arrière, hein. Souvenez-vous avec Nescafé, ce couple divorcé qui ne partage plus grand-chose mais qui se retrouve tout de même un peu autour d'un café.
Je vais te la prendre dimanche soir.
Dans quelques minutes, je te fais un café.
Toujours fidèle, ce que je vois.
Toujours un sucre, je crois.
Il est bon pour café.
Thibaut, c'est même une vraie saga publicitaire puisqu'à force de partager des cafés, ils vont se remettre ensemble.
Voilà, exactement. Nescafé à la fin, donc dernière campagne de ce couple qui, à force de partager des cafés, effectivement se remet ensemble. Et Nescafé traite du divorce ici sous l'angle du problème auquel il faut apporter une solution. C'est une approche qu'on pourrait qualifier de mélodramatique. On sent bien, on a la musique. Ces deux-là se sont aimés et ont aussi beaucoup pleuré. Deuxième approche, radicalement différente cette fois, c'est celle de Free Mobile sur le ton de l'humour cette fois.
Donc vous envisagez une séparation?
Oh que oui, 10 ans qu'on est ensemble, c'est bon.
Et vous lui reprochez quoi exactement?
Tout. Je vais être libre, maître. Plus d'engagement.
Incroyable. Mais Free?
Voilà, le divorce cette fois est présenté comme une libération et comme la solution parfaite au problème que constitue justement le mariage et son enfermement. Alors, Troisième approche, la dernière en date, celle de IKEA, pour qui le divorce n'est ni un problème ni une solution. Pour IKEA, le divorce est juste un fait auquel chacun trouve à s'adapter à sa manière.
Et sinon, ça a été que t'as bien cette semaine ?
Ouais, ouais.
Et t'as fait quoi à manger ?
Des coquillettes.
Tous les soirs ?
Ouais.
Tous les soirs ?
Et ouais, des coquillettes.
Voilà donc un petit garçon donc en garde alternée, mais qui s'est tiré parti donc de la séparation de ses parents pour se faire mijoter donc de bons petits plats et se faire chouchouter.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, qu'est-ce que ces trois histoires publicitaires nous racontent au fond du divorce ?
Eh bien, elles lisent chacune avec leur style, elles nous disent qu'un couple ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche, mais qu'il vit d'amour et de conversation. Les divorcés de Nescafé s'aiment encore mais ne savent plus se le dire et ils ont donc besoin d'un café pour avoir quelque chose à échanger. Les divorcés de Free, eux, ne se parlent plus et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont une si grosse envie de communication illimitée. Et puis les séparés d'IKEA, eux non plus, ne se parlent plus puisqu'ils en viennent à croire que leur fils a mangé des coquillettes tous les soirs. Bref, dans les trois histoires, le divorce apparaît plus comme le symptôme de l'absence de conversation que comme celui du désamour.
Il ne suffirait donc pas de s'aimer passionnément pour faire couple.
Voilà, non précisément, et c'est ce que ces trois publicités touchent avec leurs gros doigts stéréotypés. Hein. Et puis c'est surtout ce que nous fait comprendre le philosophe américain Stanley Cavell dans son analyse du cinéma et notamment de ces comédies qu'il appelle comédies du remariage, dans lesquelles justement un couple séparé finit par se retrouver. Pour faire couple, explique Stanley Cavell, il faut se désirer, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir converser et entretenir cette conversation au jour le jour. Alors pourquoi donc cette conversation ? Parce que pour Cavell, la conversation conjugale est la procédure quotidienne par laquelle chacun fait l'effort de se rendre intelligible à l'autre, comme le dit Cavell. Ça veut dire chacun fait l'effort de clarifier sa pensée, de trier ses émotions, de trouver des terrains d'entente. Alors les terrains d'entente, c'est pas les compromis, hein. C'est-à-dire des terrains en fait de la conversation qui puissent être vraiment entendus par l'autre et qui puissent au fond nous rendre meilleurs. Alors, si le désir et la passion ne sont pas les seules conditions du couple, si la conversation compte tout autant, encore faut-il le savoir pour comprendre, au moment où l'on se sépare, pourquoi l'on se sépare. Parce que la passion s'est évanouie, parce que l'on ne parvient plus à converser, les deux peut-être. On met sans doute du temps à comprendre ça, tous les ressorts de cette séparation, mais c'est essentiel pour la réussir, cette séparation, parce qu'il s'agit de faire en sorte que toutes les autres conversations familiales restent possibles.
Docteur Noureddine Benzora, je vous ai vu prendre plein de notes là.
Oui, tout à fait. Je suis d'accord que le dialogue, la conversation, comme nous disait notre ami, le dialogue est intéressant. Dialogue, dialogue et dialogue, toujours dialogue. Et je pense que c'est important. Alors ça ne fait pas tout. On peut dialoguer et se séparer. Mais je crois que c'est important quand même l'échange est important. Je pense que ça permet, quand il y a une séparation, d'aider à faire ce qu'on appelle le deuil du couple. Comme d'ailleurs pour les enfants aussi.
La petite philo de la pub et des marques, c'est tous les jeudis dans Grand Bien Vous Fasse, une émission préparée par Laure Grand Besançon et Lorraine Besse avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebi.
Keeping my head well trained, watching truth come grain by grain. Just the ones I wanna hear that something is mine. Oh, tell me it's time. Tell me it's time. Looking back, say it might be trouble. Can't say that I haven't been trying. Oh, you put me on the midnight train. Every car's running through my brain. Just the ones I wanna hear that something is mine.
l'excellent Nick Waterhouse interpréter It's Time.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h23, quand les parents se séparent, divorce, c'est notre thème ce matin en compagnie du docteur Noureddine Benzora et de Colette Barou-Chabanol. Et nous accueillons Fabrice, bienvenue, vous appelez de Tours.
Oui, dans la région de Tours.
Alors, racontez-nous votre séparation et les conséquences sur vos enfants.
Alors, quand j'écoutais ça, il y a un truc qui m'avait fait réagir quand j'écoutais votre émission. Il y avait un intervenant qui a dit, il y en a un qui parle, l'autre qui a abandonné. C'est ça qui m'a décidé d'appeler. Quand il y a 10 ans, ma compagne a pris la décision de partir, je savais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant, j'étais toujours persuadé que c'était la plus belle femme du monde, qu'il fallait absolument que je m'accroche. Et elle m'a dit, mais on s'accroche pas pour rester ensemble, ni pour la maison, ni pour les enfants, il faut qu'on se sépare, Fabrice. Et j'ai dit, mais non, je veux pas. Bon, j'étais pas d'accord. Et j'en souffrais. Et à un moment, elle m'a dit, écoute, on a réussi notre rencontre, on a réussi nos voyages, on avait voyagé. On a réussi à acheter une maison, à la restaurer, on a une jolie maison, on a une chouette maison. On a réussi à faire des enfants, des beaux enfants, ils sont sympas, ils sont mignons comme tout. Alors je te propose un truc, on va réussir notre séparation. Et là, ça m'a arrêté net, quoi. J'ai dit, bah ouais, c'est vrai ça. Ouais, on pourquoi échouer sur ce point-là? Alors évidemment, on n'est pas d'accord sur le fond, donc y a une espèce d'antagonisme qui est très difficile à vivre. Mais par rapport à une situation d'abandon, je peux pas dire ça. J'étais pas d'accord, ça n'allait pas pour moi, mais je me suis pas senti abandonné. Pour racheter la baraque, elle a attendu que j'ai un peu mis de l'argent de côté pour pouvoir racheter sa part. Elle a aménagé ses emplois du temps. Nos emplois du temps étaient tout ce qui était garde alternée. On s'est fait un truc à la carte. Voilà. Et ça s'est bien passé. Et on reste un couple parental, je dirais, un couple éducatif. Enfin, on est d'accord sur la plupart des choses, donc on n'a pas de problème pour ça. Mais voilà, c'est possible et ça peut se faire, je dirais, à moindre dégât.
Le regard du docteur Noureddine Benzora sur ce que vous venez
de dire.
Oui,
bien sûr, pour répondre à Fabrice, c'est vrai qu'il faut être deux pour faire un couple. Comme vous disiez au début que vous voulez vous accrocher, vous avez bien compris. Mais apparemment, c'est quand même des tranches de vie réussies. La tranche de vie de réussie de couple, de famille avec vos enfants, et celle même de la séparation. Pourquoi pas, et je pense que c'est quand même très sain de réagir de cette façon-là.
Colette Barou-Chabanol.
Oui, moi je trouve que c'est formidable parce que déjà ils se sont posés, enfin Fabrice et sa compagne se sont déjà posés, se sont donné le temps de la réflexion et de se dire peut-être qu'on peut ne pas se détester et réussir notre suite de vie et pour le bien des conjoints et des enfants.
Ça, merci beaucoup Fabrice de nous avoir appelé. Bonne suite de vie à vous. Bonjour Delphine.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Lyon.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Et vous sortez tout juste d'une séparation.
Oui, voilà, donc en fait nous sommes séparés il y a à peu près 1 an et demi. Et bon, quand mon conjoint a décidé de me quitter, c'était forcément un peu comme Fabrice, très douloureux et difficile à accepter, à entendre. De façon à essayer de prendre le maximum de recul pour analyser la situation, nous avons décidé quelques mois après cette décision d'acceptation de se séparer, de partir chacun notre tour de la maison dans l'intérêt des enfants, c'est-à-dire que nous avons deux enfants plutôt en bas âge et de 5 ans et de 10 ans. Et c'est vrai que pour essayer de mieux analyser et de préserver au mieux les enfants, on a décidé donc de quitter la maison une semaine sur deux, de façon à ce que les enfants restent dans leur environnement quotidien.
Et ça se passe comment? Ça se passe comment?
Alors, c'était très très difficile de prendre son baluchon le vendredi soir et de quitter son domicile. C'est vraiment 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 dans l'intérêt des enfants, essayer de vraiment de les préserver au mieux. On prend sur soi parce qu'on aime nos enfants et je pense que on est capable de faire ça pour eux. Donc ça a duré à peu près 4-5 mois. On était chacun hébergé dans des endroits différents. Et donc les enfants ont été quelque part un peu préservés de cette situation et ça permettait un peu de faire aussi une transition
Le docteur Nouridine Benzora prend beaucoup de notes, il a envie de vous répondre, de vous parler.
Oui, alors écoutez, cette forme de garde est très intéressante, sauf qu'elle a ses limites, je vais vous en parler plus tard. Alors c'est vrai que ça permet pour les enfants de garder leur repère, hein, d'être toujours dans la même maison, et de garder quand même le lien avec les deux parents. Sauf qu'elle a des limites dans la mesure où, à partir du moment où on a décidé de vendre la maison, parce qu'il y a quand même l'aspect matériel souvent, donc là, ça limite un peu cette forme de résidence. Et puis, dès qu'il y a un des deux parents qui a quelqu'un dans sa vie, donc ça déséquilibre un peu la situation. Mais ça peut être intéressant au début pour les enfants.
Colette Barouche-Abanol.
Oui, pour moi, le mot transition est important. C'est le mot prononcé par notre auditrice. C'est une solution de transition qui est moins traumatisante. Mais dès que l'un des deux refait sa vie, entre guillemets, c'est difficilement tenable.
Merci beaucoup Delphine de nous avoir appelé de Lyon.
Alors, vous devez vous demander pourquoi on vous a réunis ce soir.
On vous a réunis ce soir pour vous dire, vous annoncer.
On divorce.
Pardon ?
On divorce.
Mais qui ça, on ?
On, bah lui, enfin moi, elle, moi, nous, ton père, ta mère.
Nous deux.
Ah, papa et maman, c'est terminé.
C'est une blague.
Non, on n'a pas l'habitude de plaisanter avec des trucs pareils. J'ai fini.
Non, mais c'est pas possible, c'est horrible.
Ouais, c'est sûr que je comprends. Dit comme ça, t'as...
Je vais vomir.
J'ai fini.
Un extrait du film Papa ou Maman en 2015 avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Comment parler de la séparation aux enfants, docteur Nouridine Benzora ? Ça doit se faire clairement, sans ambiguïté ?
Alors, il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, quand on annonce tout cela, il faut être décidé. On ne peut pas annoncer ça comme ça et rester ensemble. Donc les enfants sont quand même attentifs au discours des parents. Il faut, si on peut, être d'accord ensemble pour parler aux enfants. Le mieux, bien sûr, c'est d'être ensemble, mais de pas réactiver le conflit s'il y en a un. Et puis, tenir un discours en fonction, bien sûr, de l'âge des enfants. Un enfant qui a 3 ans, on ne va pas lui parler de la même façon que celui qui a 17 ans.
Y a-t-il des âges critiques, d'ailleurs ?
Alors, j'ai répondu souvent à cette question. Je pense que tous les âges sont critiques. Chacun ressent, même les tout-petits, ils ont des réactions aussi, de réactions, en tous les cas, par rapport à cette situation-là, alimentaire, troubles du comportement. Etc.
Qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire, Colette Barouche-Abanol ?
Je voulais juste dire aussi que les enfants sont beaucoup plus futés, ouais. Et ils ont des antennes, beaucoup plus futés qu'on croit. C'est-à-dire
ils sont dotés d'un sonar. Hein.
Oui, voilà, quelquefois l'annonce vient dans un climat où déjà quand ils ont 7-8 ans, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont saisi des quantités de détails, des conversations téléphoniques, des changements dans les habitudes. Les enfants sont hyper sensibles et hyper en prise sur ce qui se passe dans la maison.
Alors qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire pendant l'annonce ?
Moi, mon premier réflexe, c'est de ne pas dire du mal de l'autre, déjà.
Exactement. Voilà. Je crois que c'est fondamental de ne pas détruire ou attaquer l'autre parent, parce que les enfants tiennent à leurs deux parents, en tous les cas, à l'image qu'ils font de leurs parents.
Puis il ne faut pas oublier que l'annonce de la séparation est porteuse de bouleversements psychologiques.
Tout à fait, hein, c'est quand même un effondrement. Tout d'un coup, ils ont du mal à se projeter. Où je vais habiter, quand est-ce que je vais voir papa, quand est-ce que je vais voir maman. Donc il y a tout cela, hein, comment on va vivre après.
Alors ce qui est difficile en cas de divorce, de séparation, c'est la reconnaissance de l'amour passé, de ce qu'on a construit de positif ensemble, de respecter les qualités de celui qu'on quitte ou qui vous quitte. Et bien ça doit sûr. Faire partie de l'annonce en creux quand même, ça.
Oui, en général c'est difficile, c'est pas ce qu'on annonce en premier. Mmh. Je pense que ça peut se faire qu'après, une fois la page tournée, où on retourne sur des choses agréables, des moments qu'on a passés
pas
ensemble.
Pas pendant l'annonce donc.
Je crois que on peut, mais ça me semble pas être d'actualité à ce moment-là. On peut le dire, ce serait même une bonne chose.
Colette Barouche-Abanol.
Au moment de l'annonce, on est complètement à chaud encore. Et je pense qu'on n'est pas encore mûr pour débriefer dans ce sens-là et pour reconnaître que l'autre, c'était pas forcément un homme haïssable ou une femme haïssable. Et il faut un petit peu de temps pour élaborer la séparation. Et
reconnaître... c'est un moment aussi, pour rejoindre Colette, c'est un moment très... les parents sont quand même pris dans quelque chose de très émotionnel. Annoncer ça à ses enfants, c'est vraiment marqué de... l'événement. Hein.
Alors, il ne faut pas oublier que beaucoup de parents souhaitent épargner leurs enfants. Est-ce que c'est une bonne solution ?
Écoutez, en tous les cas, tout ne peut pas se dire et surtout pas n'importe comment. Il faut arriver quand même à dire les choses d'une façon sereine et c'est ça qui est important.
Allez, je vous propose d'écouter un extrait du film Kramer contre Kramer de Robert Benton en 1980.
C'est pour ça que maman est partie, parce que j'étais vilain.
C'est ça que tu crois ? C'est pas du tout ça, Billy. Ta maman t'aime très très fort. La raison de son départ n'a absolument rien à voir avec toi. Et si tu veux savoir pourquoi, ta maman nous a quittés, c'est simplement parce qu'elle n'arrivait plus à me supporter. Alors si elle n'est plus là, c'est pas à cause de toi, mais de moi. Et maintenant, gros dodo, parce qu'il est vraiment très tard.
Comment éviter que les enfants ne culpabilisent ? Docteur Noureddine Benzora.
Très bien, ça c'est une question qui me paraît fondamentale, parce que vous savez très bien que les enfants, à tout âge, imaginent que c'est eux qui décident des choses. Ils sont dans un sentiment de toute puissance.
De pensée magique.
De pensée magique. D'imaginer que si les parents se sont séparés, c'est qu'ils y sont pour quelque chose. Et en même temps, c'est tellement culpabilisant. Donc je crois que c'est aux parents leur dire, c'est des histoires de grands, papa et maman ne sont plus amoureux, on va se quitter, mais tu n'y es pour rien. Et on continuera à t'aimer, on sera toujours tes parents.
Colette Barouche-Abanol.
Oui, en même temps, malheureusement, il y a aussi parfois des paroles déplacées, on va dire, de l'un ou de l'autre qui va dire « mais c'est parce que tu n'étais pas assez sage, c'est parce que tu es trop énervant, moi je ne te supporte plus ». Enfin, il y a parfois des paroles malheureuses. Et l'enfant se retrouve avec son gros paquet sur la conscience, se dire peut-être qu'il ou elle est parti à cause de moi.
Bonjour Alexandra.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Clé-sous-Bois, bienvenue. Alors, vous avez divorcé, me semble-t-il, il y a 7 ans, avec 2 enfants.
C'est ça. Elles avaient à l'époque 9 ans et 11 ans. Et nous avons eu une belle vie de couple marié, mais après un certain laps de temps, on a décidé de se séparer d'un commun accord.
Comment vous l'avez annoncé à vos enfants ?
Eh bien, on a d'abord attendu 3 semaines de bien mûrir le dialogue, le discours qu'on allait leur tenir. Et on a fait ça un samedi matin, autour d'un petit déjeuner, pour essayer de garder un moment un peu convivial et puis de leur laisser un laps de temps nécessaire pour pouvoir ensuite aller voir leurs amis ou des gens proches d'elles et éventuellement pouvoir en parler pendant le week-end et pas retourner à l'école comme ça avec ça sur le cœur et cette grosse annonce qui nous a tous bouleversés.
Et est-ce qu'elles ont subi un bouleversement psychologique dans les semaines, dans les mois qui ont suivi l'annonce de la séparation, du divorce ?
Alors, sur le moment, ça a été très difficile. On a tous pleuré, puisque c'était vraiment un gros passage à accomplir. Par la suite, elles en ont parlé à leurs amis, donc on avait bien fait, je pense, de réagir de cette façon-là. Par la suite, également, on en a parlé, nous, à nos parents respectifs. On avait d'abord tenu à les prévenir elles-mêmes pour pas qu'elles n'entendent de conversations ou de phrases. Ce qui fait que j'ai envie de dire que ça s'est plutôt bien fait. On n'a pas quitté la maison tout de suite puisqu'on a eu du mal à la vendre. Mmh. Néanmoins, on est resté dans un climat assez convivial.
Donc la cohabitation n'a pas eu de retentissement, la cohabitation forcée n'a pas eu de retentissement dans la vie familiale, transitoire ?
Non. Pas tellement finalement, parce que comme la personne précédente, on avait mis en place plus ou moins une espèce de garde alternée d'ores et déjà, et on s'octroyait des moments de liberté avec l'accord de l'autre. Et donc les enfants n'ont pas trop suivi ce manque, et puis on arrivait à communiquer tout à fait normalement, ce qui est le cas encore aujourd'hui, puisqu'on a refait chacun notre vie, et on se rencontre avec nos compagnons et conjoints respectifs pour les événements familiaux des enfants, etc. Donc ça se passe plutôt bien, mais c'était pas gagné d'avance. Et quand on a entendu autour de nous, oui, vous avez de la chance, vous entendez bien, moi je m'insure, je dis que c'est pas de la chance, c'est juste de l'intelligence. On n'a jamais mis nos enfants au conflit, au cœur du conflit qu'on avait éventuellement nous, parce que c'est facile de se reprocher plein de choses, hein, si on va par là. Mais on a toujours eu en priorité le bien-être de nos enfants et un dialogue et une communication entre nous.
Et le docteur Noureddine Benzora, encore une fois, prend plein de notes.
Oui, c'est ce que j'appelle l'intelligence du cœur. Hein. Je crois que c'est ça, vous avez quand même réussi quelque chose. Et je pense que les pleurs qu'il y a eu comme ça ensemble ont été quand même libérateurs. Je crois que c'est quand même important. Et vous soulignez aussi le contact avec les grands-parents qui ont un rôle important après la séparation, qui sont quand même aussi des repères qu'il ne faut surtout pas perdre.
Et Alexandra a parlé de rituel, du rituel du petit déjeuner le samedi matin, ne pas casser les rituels.
Tout à fait. Alors, on a beaucoup, nous, insisté, en tous les cas, dans notre ouvrage sur les rituels, parce que c'est ça qui construit quand même un enfant. Et je crois qu'il ne faut pas les perdre, que ce soit les rituels autour de l'anniversaire, autour des fêtes religieuses, etc. Il ne faut vraiment pas les perdre.
Alexandra, vous réussissez à conserver des rituels après le divorce ?
Oui, tout à fait. Ben justement, le 18 ans de notre aîné, il y a pas tout à fait un an, on s'organise aussi généralement un dîner en famille, famille recomposée avant les vacances pour organiser les vacances et savoir comment on va s'y prendre pour se renvoyer les enfants ou pouvoir les garder. On a les petits cadeaux de Noël qu'on fait entre nous aussi, et puis les petits cadeaux qu'on rapporte des vacances, parce que ça fait partie des choses qui sont importantes, et on a voulu non pas diviser notre famille, mais plutôt l'agrandir. Donc on a à nous tous 8-10 enfants maintenant, et ça se passe bien, et les gens se retrouvent ensemble, pas tous les jours bien sûr, parce qu'on construit aussi notre vie différemment, mais en tout cas, on s'entend vraiment bien.
Merci pour votre joli témoignage, Alexandra de Clé-sous-Bois. Dans quelques instants, nous retrouverons le reportage d'Anthony, qui a rencontré un ex-couple, qui a plutôt réussi, entre guillemets, son divorce. Et puis dites-nous ce que vous avez mis en place pour que votre divorce ou votre séparation se déroule bien par rapport à vos enfants. 01 45 24 7000, grand bien vous fasse. À radiofrance.com.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Dig. The chills that you spill off my back keep me filled with satisfaction. Done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish.
Sing it, baby.
About the groove.
Sing it.
Delight sur France Inter.
Ali Rebi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h42, quand les parents divorcent, se séparent, c'est notre thème ce matin avec le docteur Noureddine Benzora et Colette Barou-Chabanol qui publie « L'art d'être des parents séparés ». Bonjour Antoine Mire, bonjour.
Rebonjour.
Alors, vous avez rencontré un ex-couple qui a plutôt bien réussi, entre guillemets, sa séparation.
Ouais, c'est Julie et Laurent, ils ont la trentaine. Alors, ils se sont rencontrés il y a 8 ans, un an après, c'était la naissance de leur fils. Mais en novembre 2015, ils décident de se séparer. Pour autant, ils ont réussi le tour de force de maintenir une relation de confiance et de respect. Pour preuve, il leur arrive de manger ensemble et ils fêtent toujours Noël et l'anniversaire du petit en famille. Témoignage croisé d'un ex-couple qui a su se protéger.
Tout de suite, on s'est dit que notre priorité, c'était que ça se passe bien pour notre enfant. Et pour que ça se passe bien pour l'enfant, il faut que les parents s'entendent bien.
S'il y a une chose sur laquelle on était d'accord dès le départ,
c'était que la famille de notre enfant, c'était nous deux et lui, c'est tout.
Oui, c'est ça, c'est papa et maman, c'est-à-dire c'est une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Il faut pas qu'il y ait de jaloux.
Si vous, vous êtes attaché à garder une bonne relation avec Julie, c'est pour elle ou c'est uniquement pour votre fils ?
Bah, au fond, c'est pour les deux. J'ai jamais eu envie qu'elle quitte ma vie totalement. Quand on quitte quelqu'un avec qui on est resté aussi longtemps, qu'on était vraiment bien dans le quotidien, qu'il y avait vraiment une complicité, et cette complicité et cet amour même fantôme, il disparaît pas. Donc on n'a pas envie de voir l'autre souffrir.
Je pense qu'au départ, c'est pour notre fils. Mais qu'en fait, on en tire finalement de bonnes choses. Parce que faire la paix avec l'autre, c'est aussi faire la paix avec soi-même. Et en fait, c'est sain, pour l'un comme pour l'autre. Paradoxalement, on se soutient mutuellement aussi dans notre vie de parents célibataires.
À un moment donné, elle m'avait dit, ça m'avait vachement touché, c'était vraiment un tout petit peu avant que je parte. Elle m'avait dit, au fond, t'es mon frère. Mais ça m'avait complètement bouleversé, quoi.
Effectivement, il fallait que je lui trouve une place dans ma vie. Donc, c'était plus mon mec. Donc, qu'est-ce que ça pouvait être, mon meilleur ami ou... Ouais, mais c'est autre chose qu'un meilleur ami, parce que c'est la famille, donc peut-être une sorte de frère. Ouais, c'est vrai.
Bon, du coup, j'avais enquillé sur une blague. J'avais fait, oui, mais et on couche pas avec son frère, donc forcément, quoi. Mais c'était quelque chose qui était assez vrai. Ça n'a pas été une rupture, je pense, vraiment de guerre, quoi. Ça n'a pas été une guerre entre nous.
Est-ce que vous êtes enfant de divorcé, vous-même ?
Non, pas du tout.
Est-ce que c'est quelque chose qui joue dans notre manière de fonctionner ? Je pense que oui. Casser la famille, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est aussi pour ça qu'on garde cette solidarité, qu'on garde ce fonctionnement.
Mais ça paraît simple quand on vous entend. Vous n'avez pas traversé de moments difficiles ?
Oh, que si. Oui, on a bien sûr traversé des moments difficiles. Il y a des torsions, des engueulades, avant, après. Ça, c'est normal.
Et comment vous avez fait pour surmonter ça, alors ? Parce que c'est souvent ça, le problème, parce qu'on n'arrive pas à surmonter ces moments-là, souvent.
Oui, alors on fait beaucoup de compromis. Puis, en fait, il y a eu des moments aussi où je lui ai dit, là, je préférerais qu'on ne se voit pas à ce moment-là. Par exemple, on se voyait tous les samedis pour s'échanger notre enfant, quoi. Voilà. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, là, te voir tous les samedis, là, en ce moment, c'est trop dur. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un truc où, finalement, on dépose le petit le lundi à l'école, et puis l'autre le récupère le soir, comme ça, on se croise pas. Puis si on a envie de se parler, on se voit, mais quand on veut, pas de manière imposée.
Ça marche bien, mais c'est fragile.
C'est difficile, on va dire. Ouais. Ça se construit dans la dentelle. Ouais.
Ça reste un travail quotidien. Donc on doit toujours arriver à se tenir en équilibre sur ce qui reste et ce qui reste de bien. Et ce qui reste de bien, c'est notre enfant. Ce qui reste de bien, c'est la complicité qu'on a continué à garder. Et tous ces restes de notre ancienne histoire, toutes ces petites ruines-là, elles ont aussi quelque chose de beau et de solide à leur manière.
Reportage signé Antoine Lee. Commentaire autour de la table, Dr Noureddine Benzora, Colette Barou, Chabanol. Ce couple séparé semble avoir réussi à surmonter certains écueils avec beaucoup de compromis. Ça se construit dans la dentelle, une séparation, affirme l'ex-femme.
Tout à fait. Donc on voit bien que Julie dit c'est plus mon mec, quelle place je vais lui trouver. De toute façon, ce n'est plus son mec, mais c'est le père de son enfant et ça le sera à vie, d'une part. Alors on voit très bien que là, la séparation n'a pas complètement, et on le voit opérer dans le sens où ils sont dans une espèce d'exploration de la séparation. Et je crois que c'est quand même, et heureusement ça se passe quand même dans la douceur, mais dans la vie, il y a des moments où il faut savoir tourner la page, mais c'est pas pour autant qu'on ne sera pas les parents de son enfant.
Colette Barou-Chabanol, dans ce reportage, on entend cette volonté de ne pas casser la famille.
Oui, et le mot travail aussi, moi je l'ai perçu, c'est vraiment un travail que de rester à l'écoute et en dialogue avec son ex-conjoint et pour le bien des enfants, c'est...
Antoine Lee,
pour revenir à ce que vous disiez, ils sont très attentifs à ça et ils ont bien conscience qu'ils sont toujours quelque part un petit peu ensemble parce qu'il y a le lien de l'enfant, mais que chacun doit pouvoir s'épanouir dans sa nouvelle vie. Et par exemple, ils ont chacun a trouvé un compagnon. Ils sont très attentifs à ça parce qu'ils ont eu des cas d'amis qui, trop proches, restaient trop proches, n'arrivaient plus à se reconstruire.
Comment faire pour que la haine ne prenne pas le dessus quand on se sépare? Comment atténuer la colère, la tristesse, l'abattement?
Alors, ça, c'est un...
Vaste problème, vaste sujet.
Oui, oui. On n'a pas de bouton, hein. C'est pas une situation active, on n'a pas de bouton sur lequel on va appuyer pour justement passer à une sérénité, etc.
Dialogue, c'est l'alpha et l'oméga pour que l'enfant vive au mieux la séparation et que la vie quotidienne ne soit pas entachée de querelles systématiques.
Alors, je vais vous dire une chose, le dialogue, malheureusement, ne suffit pas. Quand on est dans la passion et dans la guerre, quand il y a de gros conflits, croyez-moi, c'est bien d'avoir le dialogue, mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut savoir à un certain moment dire qu'on passe à autre chose.
Bonjour Karine, bienvenue, vous appelez d'Aix-en-Provence.
Oui, bonjour, je vous appelle moi pour témoigner en tant qu'enfant de parents divorcés. J'ai plus de 40 ans aujourd'hui, mes parents ont divorcé, j'avais 3 ans. Et c'est un divorce réussi. Moi j'ai toujours été élevée dans un esprit mariage raté, mais divorce réussi. Ils ont été les premiers à avoir la garde alternée, puisque tous les deux enseignants, on n'avait pas de jour fixe dans la semaine et ils s'arrangeaient en fonction des emplois du temps, de leur emploi du temps respectif. Et moi je voudrais juste témoigner en disant que même si c'est un divorce réussi, il n'y a pas eu de violence, je les ai jamais vraiment vus se disputer. Il y a deux choses qui m'ont marqué, c'était que finalement ils n'ont pas vraiment reconnu la souffrance d'un enfant qui a ses parents divorcés, parce que malgré tout quand on quitte l'un pour aller vers l'autre, on a toujours un sentiment de culpabilité et un énorme manque. Parce que des parents, c'est une maman et un papa. Et finalement, quand on quitte l'un pour aller chez l'autre, il manque toujours quelque chose, quoi. Donc je pense qu'il faut quand même, en tant que parent, être très attentif à la souffrance des enfants. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi, ça s'est traduit finalement par... en fait, j'ai pas du tout voulu manger de morceaux jusqu'à l'âge de 6 ans. Et les médecins disaient que j'ai voulu rester à l'âge de 3 ans, l'âge auquel mes parents se sont séparés.
Est-ce que ça a eu des répercussions sur votre vie amoureuse plus tard ?
Oui, par la suite, oui. Je pense que j'ai divorcé moi-même très tôt, sans avoir d'enfant d'un premier mariage. Et le deuxième, il y a eu quelques incidences, mais bon, c'est après, en fait, vers les 40 ans, quand on commence à réfléchir sur sa vie, qu'on se rend compte de quelque chose. Mais je pense que effectivement, j'ai gardé un manque et quelque chose qui m'a pas toujours aidé dans ma vie de couple.
Colette Barou-Chabanol.
Oui, moi, il me vient à l'esprit, il y a l'image du trépied, c'est-à-dire quand on forme une famille, il y a le papa, maman, et il y a l'enfant, ou éventuellement les enfants, et que quand on enlève un pied, au début, en tout cas, ça risque fort d'être bancal, et que les enfants peinent, justement, entre les deux pieds qui restent, il faut faire son chemin, et puis obtenir toute l'attention qu'on a l'impression qu'on va perdre, parce que l'équipe n'est plus entière, en fait.
Docteur Noureddine Benzora.
Oui, alors pour revenir à ce problème de l'enfant quand il va chez l'autre parent et qu'il ne se sent pas à l'aise, il y a un problème aussi de loyauté vis-à-vis du parent qu'on a quitté, parce que peut-être que bon, on va quitter maman pour retrouver papa qui a une nouvelle amoureuse, etc. Donc il y a un côté comme ça de se poser la question, est-ce que vraiment on est loyal si on se laisse aller, si on reconnaît cette personne, etc. Donc je crois que c'est aussi quelque chose qui vient gêner un peu les enfants sur ce plan-là.
Bonjour Justine.
Bonjour.
Bienvenue. Est-ce que j'ai le droit de te tutoyer? Tu as 13 ans.
Oui, allez-y. Bon.
Tu appelles de Nantes. Alors comment s'est passé le divorce de tes parents?
Alors au début, moi ça a été un peu dur, enfin, même si ça fait maintenant, je crois, 8 ans. Mmh. Ça a été un peu dur au début, je me revois toujours la scène et tout, mais...
C'était quoi la scène, justement?
Alors, on était sur le canapé, puis il m'annonçait ça, il était en mode, mais il se passe quoi, là? Et donc, ouais, même si j'étais hyper petite, je me rendais toujours pas vraiment compte, mais je me rappellerai toujours de cette scène un peu bizarre.
Et donc, après, quelles ont été les conséquences pour toi, après que l'annonce a été faite de la séparation?
On a commencé à faire les gardes alternées, donc c'était une semaine,
Est-ce que ça te convenait, toi, cette garde alternée?
Oui, ça m'aurait pas du tout plu si ça avait été comme un week-end sur deux ou quelque chose comme ça, mais là c'était vraiment égal tout le temps, donc ouais, non, c'était très bien.
Et aujourd'hui, à 13 ans, t'as le sentiment que cette séparation, de ton point de vue, s'est plutôt bien passée?
Oui, parce que... je sais pas, que ce soit pour les anniversaires ou on reste toujours manger ensemble, ou même des fois on va au cinéma ensemble. Donc ouais,
ils se sont jamais disputés pour des trucs genre non, c'est mon tour ou enfin voilà. Donc c'est oui, très bien passé.
Docteur Benzora.
Oui, c'est une très bonne chose. Ils sont restés quand même souples. C'est vrai que la résidence alternée, il y a quand même, à mon avis, en tous les cas à notre avis avec Colette Barou, on est quand même parce que cette situation a fait couler beaucoup d'encre, hein, l'histoire de la résidence alternée, qui fait qu'on pense que quand même ça peut être très intéressant parce que ça permet à l'enfant de garder un lien avec les deux parents, mais il faut quand même des conditions. Il faut quand même que le couple n'ait pas eu de violence, surtout physique. Je crois que ça, c'est à exclure. Et puis, par contre, il faut quand même qu'il y ait un climat apaisé, que géographiquement, les résidences soient proches, bien sûr, le même établissement, et qu'il n'y ait pas d'éducation trop extrémiste, c'est-à-dire un peu un papa McDo et une maman anti-McDo, par exemple. Je pense que ça peut fonctionner.
Merci beaucoup, Justine, d'avoir appelé. Tu es en vacances, là ?
Oui, oui, bon, oui.
Mais profite bien de la fin de tes vacances. À très bientôt. À très bientôt. Alors, j'ai deux courriels. Le divorce de mes parents était le plus beau jour de ma vie. Et puis, Gabriella qui nous écrit, j'ai 24 ans, mes parents ont divorcé lorsque j'avais 8 ans. La situation était tellement invivable au sein de la maison que je me rappelle du bonheur et du soulagement lorsque mon père m'a annoncé la séparation. Docteur Benzora.
Oui, bien sûr que c'est pas toujours évident, mais sachez une chose, c'est quand même qu'on le veuille ou pas. J'ai des exemples comme ça de fratrie, hein, où il y avait quatre enfants dans la grande qui jouaient, parce que les enfants aussi, il y a une espèce de lien de fratrie qui est important. Et dans cet exemple, c'était quand même quatre enfants dans celle de 14 ans qui était un peu le leader. C'est elle qui gérait comme ça les passages d'une maison à l'autre, etc. Et qui faisait quand même, qui avait quand même une dynamique assez importante et qui, quand les parents sont rentrés rejoindre la consultation, on dit mais on comprend pas pourquoi vous restez ensemble tellement que c'est invivable et le jour où ils sont séparés c'était un soulagement, mais ça veut pas, on peut pas non plus faire l'économie du deuil de séparation même si ça soulage.
Grand bien vous fasse Ali Rebéi.
Maintenant qu'on est vraiment séparés, je refuse d'être la méchante maman. Tu dois absolument apprendre à dire non.
Ah, mais je sais le dire. Ah. Tiens, ce soir, en passant devant une animalerie, ils m'ont demandé un petit singe. Eh ben, je leur ai dit non.
Je plaisante pas. Les choses ne sont plus comme avant. Pas question qu'ici, ce soit l'enfer pour eux et que le week-end chez papa, ce soit le paradis des enfants.
T'as raison. Tout est différent maintenant. Car autrefois, je serais resté là, sagement, à t'écouter délirer. Mais aujourd'hui, je me dis... non. Oh, dis donc, t'as vu ça ? Je deviens de plus en plus doué à ce jeu-là.
Un extrait de la série américaine Desperate Housewives. Docteur Benzora, ça doit parler à beaucoup de parents séparés, là, cette scène.
Oui, donc c'est parler. C'est vrai que c'est compliqué, cette situation de... on aménage quand même une...
Parce qu'il peut y avoir la mère fouettarde ou le père fouettard, et puis l'autre parent qui dit oui à tout par peur de culpabiliser. Oui. C'est celui souvent qui n'a pas la garde alternée.
Vous savez qu'est-ce qu'ils me répondent les pères dans ces cas-là ? Je l'ai un week-end, je vais pas jouer au père fouettard. Mais en même temps, on a continué à jouer son rôle d'éducateur. On insiste quand même si c'est pour un week-end, on peut pas le laisser faire tout ce qu'il veut, même si en même temps, on peut le gâter.
Colette Barou-Chabanol, sur ce sentiment de culpabilité de certains parents qui ne veulent pas sévir, punir, mettre des limites.
Parce qu'ils se posent en séducteurs plus qu'ils sont, ils font plus partie de l'équipe des parents qui sont éventuellement, des éducateurs. Mmh. Ils deviennent des séducteurs. On est en rivalité avec son conjoint et donc quand on l'a, on veut être le meilleur, le plus permissif éventuellement. Hein. C'est le risque en tout cas.
Et l'enfant devient justement manipulateur. Hein. Il y a l'exemple de ce garçon de 17 ans, les parents se sont séparés, il a laissé sa classe de terminale, il n'a pas passé son bac, et ensuite ils l'ont dit, ben maintenant tu es grand, il faut que tu travailles. Et quand il a voulu travailler, il leur a demandé de l'argent pour acheter une voiture, ils lui ont donné chacun de l'argent, mais finalement ils ont appris quelques temps après qu'il était parti aux États-Unis passer des vacances.
Alors pour aider les parents qui se séparent, il existe la médiation familiale, les thérapies familiales, docteur Noureddine Benzora.
Alors justement, la médiation familiale, ce n'est pas que le juge qui peut saisir de cela, on peut s'adresser, il y a beaucoup d'associations au niveau de la médiation, ça permet un petit peu de remettre un peu les choses au point, mais bon, il y a des conseillères conjugales, il y a bien sûr les psys qui sont formés aux thérapies familiales, donc on a quand même qu'on le veuille ou pas dans notre pays, des moyens pour nous faire aider.
Question de Gaëtan, comment annoncer le divorce des grands-parents à des enfants de 7 et 4 ans? C'est de plus en plus fréquent, ça, les parents qui, à l'âge de 60-70 ans, se séparent. Comment on l'annonce aux petits-enfants? C'est la même chose. Mais
c'est
qu'avec
la tranche d'âge de divorce qui a le plus augmenté, hein, il faut le dire, depuis quelques années. C'est le divorce des sexagénaires, si on peut dire. Je pense que ça passe par l'intermédiaire des parents, plutôt. C'est-à-dire que le divorce est annoncé aux enfants qui ont 30 ou 40 ans. Et ce sont eux qui, après, parlent à leurs propres enfants. Et moi, j'ai remarqué que souvent, ça se focalise autour des fêtes, autour de Noël, autour des anniversaires, peut-être des rituels. Tout d'un coup, les petits-enfants qui perdent, mais qui n'osent pas trop poser de questions. Hein,
Merci beaucoup Colette Barou-Chabanol, merci docteur Noureddine Benzora. L'art d'être des parents séparés, c'est publié chez Albin Michel. À la technique ce matin, Michel Bézikian et Kevin Pelot. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. Demain, on prend un peu de recul et on se demande comment continuer à s'émerveiller dans un monde de plus en plus brutal avec la philosophe Belinda Cannon. À suivre la bande originale de Nagui.